Caractère libre, une émission proposée par Thomas Marcilly, à la rencontre de celles et ceux en chemin intérieur. Une entrevue en toute intimité pour se questionner, se réapprendre et se laisser inspirer.
Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Caractère libre sur Radio Médecine Douce. Bonjour à chacune et bonjour à chacun. Alors, nous allons rencontrer aujourd'hui Judith Benita, mère de famille, sophrologue et avant tout en chemin en elle-même. C'est un thème qui me tient aussi tout à fait à cœur, que nous allons pouvoir explorer un peu plus au travers de l'expérience de Judith aujourd'hui. Il n'y a pas une unique voie pour approfondir la connaissance de soi, les chemins sont multiples et ce sont des thématiques que nous abordons au quotidien sur Radio Médecine Douce. J'ai à cœur dans cette entrevue de vouloir vous inspirer avec le témoignage de Judith. Alors, le mot thérapie, il est fortement mis à mal aujourd'hui. Il est évident que l'on ne peut pas s'improviser thérapeute en appliquant un outil ou une technique, car accompagner l'autre, c'est oser déjà prendre soin de soi en profondeur pour permettre à l'autre de faire levier dans sa propre histoire avec cette qualité de présence-là. La thérapie individuelle, de couple ou de groupe, quel que soit le postulat de base, offre pourtant un cadre formidable pour explorer la relation sous toute forme. Alors tout ceci, nous allons en parler avec toi, Judith, et je me réjouis de t'accueillir, et donc bienvenue de l'autre côté du micro sur Radio Médecine Douce.
Écoute, merci Thomas, bonjour, bonjour à tous les auditeurs, et je suis très, très contente d'être avec toi aussi aujourd'hui.
Alors comment c'est pour toi cette question que j'aime bien poser? Voilà, j'imagine que ce n'est pas une habitude pour toi de faire ce genre d'exercice, mais comment tu te sens là, ici et maintenant?
Écoute, ici et maintenant, je suis assez détendue et puis je suis sophrologue, alors ce serait dommage d'être stressée quand même.
Donc tu me partageais dans ton chemin, dans ton témoignage, Judith, que bon bah voilà, ton cheminement intérieur il a bien débuté il y a 8 ans. Oui. Est-ce que tu te souviens de celle que tu étais avant et surtout ce qui a provoqué un retournement en toi? Déjà celle que tu étais avant, j'aime bien revenir un peu là-dessus quand tu te regardes avec ce petit recul.
Écoute, je me regarde avec à la fois un peu de bienveillance et un peu de moquerie aussi. Je me souviens de qui j'étais, ça c'est sûr. Je crois que j'étais un peu une caricature. Et en même temps, c'est aussi ce qui m'a aidé à passer toutes les étapes aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a de la bienveillance. J'étais une sorte de... entre le bon petit soldat et le commandant-chef. Quelqu'un qui avance très très avec beaucoup une énergie très très masculine, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai fait des études assez exigeantes entre guillemets. J'ai travaillé dans un monde d'hommes pendant longtemps, en tout cas avec une énergie qui était très masculine. Et j'ai avancé comme ça en serrant les dents un peu de façon très très presque mécanique. Un peu à côté de moi aussi. Et en même temps, cette espèce de carapace, comme je l'appelle, c'est aussi ce qui m'a tenue pendant un certain temps, en fait. Donc, elle a aussi eu, j'ai aussi beaucoup de bienveillance pour cette carapace, parce que c'est ce qui m'a porté, c'est ce qui m'a aidé à franchir plein d'étapes aussi. Donc voilà, avec ce double regard, je fais aussi, je mesure tout le chemin parcouru aussi. Donc, ouais.
J'ai beaucoup toujours de curiosité à savoir qu'est-ce que tu faisais comme travail avant d'être sophrologue, parce que j'aime bien savoir comment la vie se dessinait.
Écoute, j'étais dans l'entreprise, j'avais des fonctions dans une direction achat, j'ai été acheteuse, consultante, manager, voilà, donc j'étais dans cet univers où... Alors, c'est pas Dallas, c'est pas impitoyable, mais on demande quelque chose, voilà, avec beaucoup d'objectifs, avec des résultats, avec il faut avancer, et on a quand même peu d'état d'âme dans cet univers-là, même si on peut faire les choses avec éthique et avec le plus de valeur possible, toujours est-il que, voilà, on est quand même dans une pression du résultat, de la culture du service client, etc. Et voilà, je faisais ça. Et pour être tout à fait honnête, en fait, je n'ai pas complètement abandonné ma première activité. Et j'y retourne encore de temps en temps, mais je le fais avec beaucoup plus de liberté, avec beaucoup
J'imagine.
plus de légèreté. Et du coup, ça a complètement changé le regard aussi. Ça a complètement changé mes interventions. J'interviens dans des entreprises différentes. Je suis toujours consultante à achat, vraiment quelques jours par semaine ou par mois. Et du coup, je me rends compte aussi j'amène cette notion d'humain aussi dans mon travail. Et du coup, les gens me confient des choses aussi différentes. Donc, c'est très intéressant d'avoir aussi gardé ce pied-là, de ne pas en l'avoir complètement quitté.
Ouais, complètement, surtout si c'est confort pour toi et que c'est voilà, toujours écologique.
Tout à fait.
Alors, comment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça a changé? Parce que tu aurais pu rester, comme tu le disais, avec cette carapace, c'est comme, voilà, on le fait à un certain niveau de nous-mêmes, mais quelles ont été les prémices et le point de bascule?
Écoute, le point de bascule, enfin en tout cas les prémices, c'est la maternité.
D'accord.
Quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, qui a maintenant 9 ans et demi, je m'interrogeais beaucoup. Je m'interrogeais sur son éducation, la façon dont j'allais l'accueillir, la façon dont j'allais l'élever. J'étais très très impliquée, beaucoup plus que son papa, dans toutes ces questions-là. Ça m'a beaucoup travaillée pendant toute la grossesse. Je crois que j'ai lu quantité de livres sur l'éducation. Enfin, j'avais lu, voilà, je crois, tout ce qui touchait même l'adolescence des enfants avant même qu'ils soient nés. Tu vois, c'était quelque chose de. J'étais avec la volonté de vraiment bien faire aussi, de me détacher d'un certain modèle, de celui que j'avais vécu moi en tout cas. Et voilà, et Noah est arrivé et ça a bouleversé plein de choses. Et bizarrement, avec toute la bienveillance que je voulais mettre dans ma fonction maternelle, avec toute l'exigence de presque de perfection que je voulais mettre dans cette fonction-là, je me sentais à la fois aussi très intrusée. C'est-à-dire qu'il m'envahissait aussi cet enfant et ça venait bousculer l'enfant intérieur qui avait vraiment besoin d'être guéri à l'intérieur de moi. Et du coup, le fait de vouloir donner autant à un enfant alors que je ne me le donnais pas à l'enfant intérieur que je portais moi, du coup ça venait, ça provoquait vraiment des choses très très inconfortables, ça devenait très difficile à porter, ça devenait aussi difficile avec le papa parce que du coup ça créait plein de tensions. Et puis l'arrivée d'un enfant, ça bouscule et ça vient rappeler à chaque parent qu'il a été un enfant et ça vient travailler sur chacun. Et puis à un moment, quand ça rentre un peu aussi en collision, toutes ces réminiscences, et du coup c'était compliqué. Et pour tout te dire, mon chemin individuel, il a commencé avec la volonté de faire une thérapie de couple. Et parce que je sentais que voilà, pour notre couple, c'était déjà compliqué, ça mettait en péril un certain équilibre, et je sentais bien qu'il fallait faire quelque chose. Et donc j'ai proposé une thérapie de couple. Et puis en fait, alors malheureusement ou finalement très heureusement, le papa de Noah m'a répondu à l'époque, écoute, non, en fait, je me sens pas vraiment concernée, je me sens pas prêt, je pense pas qu'on ait besoin, moi je me vois pas faire une thérapie de couple. Et je me suis dit, ben c'est pas grave, cette thérapie de couple finalement, je vais la faire avec moi et moi-même. Et ça a démarré comme ça.
Nathalie Lefebvre se reconnaîtrait bien là-dedans.
Oui, c'est ça, c'est vraiment, on est son premier compagnon en fait. Et donc, du coup, oui, et je me suis dit, bon, bah, c'est pas perdu, tant pis, je vais travailler sur moi. Et puis, je crois beaucoup à la systémie et le fait que quand on bouge un élément du système, finalement, ça fait aussi bouger le système. Et donc, j'ai commencé comme ça. Mon fils avait 18 mois. Pour moi, ça me rappelait des choses, hein, cette période-là aussi. Et ça venait toucher quelque chose dans mon histoire. Et donc, j'ai commencé. Et je me souviens très très bien du premier entretien, enfin de ma première séance en fait, où je suis arrivée pleine de certitudes, avec ma carapace, avec avec mon écran de protection tellement fort, de moi je suis parfaite et tout le problème il vient de mon mari en fait. Et j'en rigole aussi, enfin j'en rigole vraiment beaucoup aujourd'hui, mais j'arrivais avec toute cette énergie. Bon, bah alors écoutez, combien de temps ça va durer? C'est quoi les résultats? Comment on mesure? Enfin bon, bref, on y va là. voilà, avec quelque chose de cette énergie-là, presque militaire en fait,
Ouais,
hein. Et je m'en souviens vraiment presque comme si c'était hier. Et que de chemin parcouru
ouais. Et oui, que de chemin
depuis.
parcouru, mais c'est en même temps très très beau, très doux ce que tu dis là, et je sens bien toute la bienveillance que tu portes sur la femme que tu étais, parce que c'est aussi cette énergie qui t'a amené justement aussi en thérapie, ce côté un peu on veut du résultat,
Totalement.
et c'est finalement pour, et
Totalement.
heureusement qu'elle était là, quoi. Et c'est vrai que c'est chouette.
Totalement. Totalement.
Alors tu me disais que
Et
tu as cheminé longtemps avec le même thérapeute, et ça c'est tout à fait intéressant aussi, qu'on garde cette même anthropologie voilà, assise sur l'expérience du thérapeute. Alors est-ce que tu peux nous en partager justement un petit peu plus, quels ont été éventuellement les points d'évolution?
oui. Alors, je pense que vraiment, c'est une question de rencontre. J'ai eu de la chance, je pense, de tomber sur un thérapeute qui m'a parlé dès la première fois, en fait, hein, avec qui le contact s'est vraiment bien passé. J'avais besoin de sécurité. Moi, dans mon histoire, c'était important de venir chercher de la sécurité. Donc, du coup, je suis venue. Le transfert s'est fait assez vite. C'est-à-dire que d'un coup, voilà, j'avais besoin qu'il soit là. Je me suis sentie. Je peux raconter ça parce que ça, c'est intéressant aussi. Dans le cadre du thérapeute avec lequel je travaille, il se laisse 3 séances pour décider s'il travaille ou non avec quelqu'un. Et moi, ces 3 séances, je les ai vues comme une sorte d'examen de passage. Est-ce que je vais mériter?
Oui.
Est-ce que je vais mériter? Est-ce que je vais passer mon examen? Et ça me rappelait aussi, voilà, ça venait toucher quelque chose dans mon histoire, donc ça me ramenait aussi à toutes les blessures, toutes les faiblesses, enfin les fragilités qui faisaient écho en moi. Et donc du coup, je ne pouvais pas lâcher, puisque voilà, je ne pouvais pas échouer à l'examen de passage. Et donc ça a démarré comme ça. Et alors, j'ai la chance aussi d'avoir un thérapeute qui travaille avec énormément d'outils, énormément de pratiques. Et du coup, pour moi, ça a été extrêmement nourrissant parce que ça s'adaptait à chaque fois qu'on pouvait utiliser le MDR à un instant parce que ça s'appliquait, l'EFT à un autre parce que ça s'appliquait, les constellations en individuel parce que c'était le juste moment. Et donc, du coup, voilà, le fait d'avoir un thérapeute qui soit aussi capable d'être vraiment dans cet ajustement permanent. Et aussi en travail permanent, et ça, je pense que c'est important de le souligner,
Oui.
parce qu'on est accompagné aussi longtemps par le même thérapeute que parce que lui aussi est en
Exactement.
mouvement. Et ça, c'est vraiment important, et ça me nourrit aussi beaucoup en tant que thérapeute. Donc c'est vrai, quand on dit 8 ans, ça peut paraître toujours un peu oh, presque. Pour certains, ça peut être angoissant. J'ai eu certaines réflexions sur la dépendance, sur mais tu te sens autonome. Et en fait, je suis aussi très sereine par rapport à ça parce que j'ai tellement cheminé pendant ces 8 ans que moi aussi, je me nourris aussi dans mon évolution professionnelle de ce modèle. Et donc ça aussi, ça me paraît important à le garder en tête. On n'est pas obligé, enfin toutes les thérapies ne durent pas 8 ans, peut-être heureusement ou pas. On va au plus ou moins en profondeur en fonction de ce dont on est capable de faire en fait, hein. Et je pense que il faut aussi souligner que c'est parfois très inconfortable d'être en chemin. On vient bousculer, on vient réveiller des... On vient aussi un peu nettoyer la vase, on vient remuer la vase au fond de la mare, que ça fait de la boue, ça fait des vagues, ça fait des choses pas toujours très jolies. Et puis il faut savoir s'écouter en fait. On peut faire un stop, on peut y retourner. Moi j'ai pas eu ce besoin vraiment, même si j'ai eu une deuxième maternité avec la naissance de jumeaux. Donc, il y a aussi réveillé plein de choses. Donc, voilà, dans ces périodes-là où on est un petit peu plus sensible, un petit peu plus fragile, on va moins en profondeur, on remue moins la vase, ça c'est sûr. Mais du coup, voilà, il faut aussi s'écouter. Et moi, j'avais envie d'aller en profondeur dans ce que ça venait. Voilà, de ce qu'il y avait besoin de guérir, entre guillemets. Et je suis très contente de l'avoir fait. Et donc ça, c'était une première étape où je me souviens, j'arrivais quand même en séance, c'était toutes les semaines à l'époque. J'avais 1 heure par semaine et j'attendais quand même. Enfin voilà, c'était l'endroit où je pouvais déposer tout ce qu'il y avait, où je venais me ressourcer, prendre du temps pour moi. Donc j'arrivais avec une certaine forme d'urgence, entre guillemets, de oh vite, il faut que je dépose. Mon thérapeute partait un mois en vacances et ouh là là, c'était long et oh comment je vais faire? Et puis progressivement, on sent aussi à la fois tout le chemin qu'on fait et toute l'urgence qui s'apaise en fait, hein, tout simplement. Le fait que ben, on n'a plus besoin de sa séance. On y va avec plus de sérénité et on va travailler avec plus de sérénité.
C'est très
Et
beau
donc
la
voilà.
manière dont tu parles de ton chemin. Vraiment, c'est très agréable de t'écouter. Ben, ça fait, bon, évidemment, il y a une forte résonance, mais c'est vrai que ça fait du bien. Enfin, je trouve que tu laisses vraiment transpirer les vraies qualités de c'est quoi être en chemin. Évidemment, avec l'appui d'un voilà d'une vraie alliance thérapeutique, puisque j'entends aussi c'est que
Totalement.
ça vient nourrir quelque chose en toi qui fait que dans les entre-séances, il y a vraiment quelque chose qui est voilà qui se digère, qui se transforme en toi.
Totalement.
Et la question que je voulais te poser, ben, c'est quoi être une maman qui chemine alors? Parce que c'est vrai que tu as vécu ta première grossesse, c'était le début de quelque chose. La deuxième, avec d'autres apports, d'autres voilà, constructions à l'intérieur de toi, c'était quoi les nuances? Comment tu as pu la vivre cette grossesse-là?
Alors, pour moi, la deuxième grossesse était aussi très, entre guillemets, compliquée à vivre. Moi, la gémellité dans mon histoire est quelque chose d'un petit peu compliqué. J'ai eu un frère et une sœur qui étaient jumeaux, qui sont nés juste après moi, qui m'ont demandé de grandir, ou en tout cas, je me suis imposée de grandir un peu trop vite pour moi à ce moment-là de ma vie, quand ils sont arrivés. Et donc le fait de vivre une grossesse gémellaire après un aîné exactement comme ma mère l'avait vécu, c'était voilà, quand même très bousculant pour moi. Ça venait vraiment dire quelque chose de la répétition du scénario et c'était compliqué. Et en même temps, ça a été l'occasion d'une formidable réparation parce que bah justement, j'étais déjà en chemin et donc je pouvais aussi mettre plus de conscience. Mettre de la conscience sur ce que je vivais, sur ce que mon aîné vivait quand ses frères sont nés. Et du coup, je pense que ça a été aussi l'occasion de réparer quelque chose dans mon histoire. Et du coup, où j'ai laissé beaucoup de temps à mon aîné pour apprivoiser. J'ai passé beaucoup de temps avec lui seul, même quand ses frères sont nés, parce que je savais à quel point il avait besoin, de ce temps-là, parce que je ne l'avais pas eu. Et donc je crois que c'est ça en fait, être en chemin ou être une maman qui chemine, c'est d'une accepter qu'on n'est pas parfaite et fort heureusement qu'on fait des erreurs, que rien n'est irrattrapable, que la relation ça se construit tous les jours et que si à une étape de notre vie on est entre guillemets en déficit de quelque chose. Et ben tout n'est pas perdu. Et je me souviens avoir lu un livre qui s'appelait Tout se joue avant 6 ans. Et je me souviens de la pression que ça m'avait mise à l'époque en me disant, mon Dieu, mais j'ai 6 ans pour tout faire en fait. Si je
Oui,
rate
oui.
tout et comment ça va se faire? Avec cette pression-là. Et en fait, non, on s'aperçoit que non, non. Et heureusement, en fait, rien n'est jamais figé, que ça évolue et que. À nos enfants, on donne tout ce dont on est capable à l'instant où on vit les choses. Et je dis souvent, et ça c'est vraiment mon leitmotiv, c'est que la première des bienveillances, elle s'applique à soi-même. Et ça vraiment, j'y tiens avec l'exigence, ou en tout cas la volonté d'être toujours un meilleur, ou en tout cas d'être toujours dans cette conscience de mère et de donner le meilleur à mes enfants et de leur transmettre ça aussi, ce niveau de conscience-là. Et en même temps, avec cette bienveillance, que ben, on fait comme on peut, que c'est pas parfait et que c'est normal et qu'il faut accepter ça, c'est une étape immense dans le chemin en fait. Et je mesure, en même temps que je te le dis, tu vois, maintenant, Thomas, je mesure aussi tout le chemin parcouru parce que, il y a encore 4 ans, j'aurais été incapable de te tenir ce discours-là.
Exactement,
Et
j'imagine.
pour moi, c'est aussi extrêmement libérateur de dire que accepter d'être une mère imparfaite, c'est aussi donner à nos enfants la possibilité d'être imparfaits. Et ça, c'est extrêmement libérateur, et pour nous et pour eux.
Complètement. Waouh, merci pour ce beau cadeau que tu nous fais là d'authenticité. Toi qui es thérapeute maintenant, quelles sont les qualités que tu as rencontrées justement chez ton thérapeute qui t'ont réellement soutenu pour qu'on puisse zoomer un petit peu là-dessus et montrer en quoi une vraie alliance thérapeutique peut être apporter des vrais piliers. C'est quoi ces qualités que tu as rencontrées et qui sont peut-être additionnées au fil des années avec le thérapeute qui voilà, t'ont soutenu?
Je pense que la première chose, c'est le cadre. C'est le cadre interne du thérapeute et c'est le cadre qu'il offre dans son cabinet et dans sa thérapie. La régularité des séances, le fait qu'il soit toujours là, quoi qu'il se passe. À un moment, je me souviens avoir été très en colère. J'avais trouvé que, notamment en thérapie de groupe, il y avait eu quelque chose qui n'était pas juste pour moi. Et il m'avait dit, OK, vous avez le droit d'être en colère. Dans cet espace-là, à ce niveau-là, ça ne remet pas en cause toute la relation. Et moi, je suis là, et moi, je tiens le cadre. Voilà, et ça, c'est pour moi une immense qualité de thérapeute, d'avoir suffisamment travaillé sur soi pour être capable, au-delà de ce que les patients nous renvoient ou les clients nous renvoient en fonction de comment on les appelle, d'être capable de tenir ce cadre. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et on ne tient ce cadre que si on a effectivement suffisamment cheminé. Ça, c'est aussi quelque chose que je souligne parce que on n'est pas, on ne peut emmener ou en tout cas accompagner l'autre que jusque-là où on a été. Et ça, c'est vraiment aussi extrêmement important à comprendre. Et quand on est thérapeute, c'est aussi pour ça qu'on est en chemin tout le temps parce que sinon, ben, on ne peut pas accompagner les clients plus loin en fait. Donc ça, c'est vraiment la première chose, le cadre, le cadre, le cadre. Vraiment, je pense que oui, c'est vraiment extrêmement important. Ça suffit pas. Je pense qu'il y a aussi cette immense bienveillance et cet espace d'amour presque, j'ai envie de dire. Je suis sophrologue et je suis en formation de sophroanalyse. Et il y a cette idée que le thérapeute offre aussi un espace d'amour ou quelque chose qui se transmet avec beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est important. Et le dernier élément, et pour moi, c'est l'autre pilier qui vient garantir aussi la sécurité des deux premiers, c'est le fait qu'en tant que thérapeute, on ne veut rien pour l'autre. On n'est pas sauveur et on ne veut rien pour nos clients. Quand quelqu'un vient me voir, hein, pour l'instant en sophrologie, mais je ne sais pas où il a envie d'aller, je ne sais pas comment il va s'approprier ce que je transmets et ça lui appartient. Moi, ce que je peux faire, c'est garantir le cadre, garantir toute la bienveillance avec laquelle j'accompagne, mais je ne veux rien et je ne sais rien pour l'autre. Et ça, c'est, il me semble, une qualité fondamentale. C'est une grande, ça demande beaucoup d'humilité, hein, de se dire qu'on ne sait pas. Que parfois on peut voir à travers l'autre qu'on intuite qu'on pourrait faire ci ou ça ou l'emmener jusque-là ou lui faire découvrir tout ça et en même temps c'est accepter que l'autre découvre tout seul en fait et ça pour moi c'est quelque chose de vraiment très important cette humilité du thérapeute de ne rien savoir.
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, justement, ça a été certainement une évidence pour toi d'accompagner l'autre? Parce que y a du chemin quand même entre.
Oui, je crois que fondamentalement, je crois que je peux résumer tout mon chemin avec une phrase qui a été de ce que j'ai fait en 8 ans, c'est d'apaiser la guerrière et de laisser la place à la femme que je suis. Et être une femme, pour moi, c'est être dans cette capacité d'accueil, dans cette immense bienveillance, dans cet espace de sécurité où les autres peuvent venir se poser, c'est ce que j'essaye de faire comme mère. Et puis j'ai senti que voilà, mon activité professionnelle de l'époque qui prenait toute la place venait se confronter à cette dimension féminine, en tout cas, et ça venait faire quelque chose qui n'était pas fluide en fait. Et donc ça a été aussi un chemin, ça a pris du temps de qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, avec qui. Et puis tout doucement, ça s'est affiné. La sophrologie s'est apparue assez rapidement. Mais je savais aussi, et ça c'est intéressant, Quand j'ai commencé la sophro, je savais aussi que la sophro, c'est un bon outil pour apaiser, pour, on va dire, apaiser le symptôme. Et je savais aussi, parce que ça faisait quand même quelque temps que j'étais en chemin, ou en thérapie, que ben, on peut apaiser le symptôme, mais si on ne va pas voir à l'origine, et si on ne va pas faire un peu d'étiologie, ben, le symptôme il se déplace, ou alors il revient. Et je savais aussi que voilà, j'étais entre guillemets jeune thérapeute. Je voulais démarrer par la sophrologie parce que ça me semblait juste de là où j'en étais de ne pas pouvoir et savoir accompagner plus loin. Et je savais aussi quand j'ai démarré la sophro que j'irais plus loin. Et donc en tant que thérapeute, on n'a jamais fini, c'est ça aussi. On n'a jamais. On continue et c'est aussi pour ça que je dis qu'un thérapeute, un bon thérapeute, il se forme continuellement parce qu'il continue d'apprendre. Et il continue de creuser et voilà et pour moi devenir thérapeute c'était une forme d'expression de ma féminité en fait tout simplement.
C'est très beau. Donc oui, tu le disais, cheminer, ça prend du temps. Ça,
Oui.
tu me le disais beaucoup en off et tu l'as assez rappelé là-dedans. C'est-à-dire que toi, tu te vois vraiment, évidemment, on va le comprendre, complètement évoluer là-dedans, continuer à développer ta pratique, ton assise, ta présence. Et, comment tu te vois, si tu te projettes dans 10 ans, par exemple, quel thérapeute tu aimerais être?
J'aimerais être un thérapeute qui respire. J'aimerais être un thérapeute qui offre cet espace de respiration et de sécurité pour que, c'est une image qu'on utilise beaucoup en sophro-analyse, d'être cet espace de sécurité où les clients peuvent venir se déposer ou poser. Et qui puissent se nourrir de cette respiration-là pour redévelopper la leur, en fait, leur propre chemin à eux. Donc j'espère être, oui, c'est une thérapeute qui, je pense, qui continuera de cheminer, qui continuera de se former, qui continuera de découvrir. Et en même temps, voilà, ça c'est vraiment. Tout le projet que j'ai pour ma pratique, c'est de pouvoir offrir cet espace de sécurité et de bienveillance pour que d'autres aient envie de s'y déposer ou en tout cas de s'y reposer pour pouvoir mieux ensuite continuer en toute autonomie.
Tu me parlais, peut-être ça va être notre point de conclusion, sur tu t'es spécialisé en sexothérapie, en tout cas tu avais spécialisé ton regard sophro là-dessus. En quoi, moi c'était tout à fait intéressant, je trouve qu'on puisse en parler, parce que même là, dans tout ce qu'on évoque depuis le début de cette rencontre, c'est comme reposer un regard moderne sur les choses et voilà, et très actuel. Donc, en quoi la sexothérapie aujourd'hui est intéressante pour la relation et dans ce qu'elle t'a peut-être apporté déjà à toi?
Écoute, je crois que. Alors, je me suis aussi beaucoup nourrie, je fais du yoga, je suis très intéressée aussi par toute l'approche kabbaliste. Et ce qui revient, c'est que l'énergie sexuelle, c'est une énergie tout à fait vitale et naturelle. Et aujourd'hui, on ne sait pas très bien en parler en Occident. Alors, de plus en plus, on entend, mais voilà, moi, j'avais cette idée que. La sexualité, c'est une énergie vitale, c'est une énergie extrêmement noble et spirituelle, avec une dimension sacrée, et qu'aujourd'hui, si on a, et que c'est pas si facile, parce comme moi j'ai pu rencontrer, mais comme aussi toutes mes amies autour de moi et pas seulement des femmes d'ailleurs, mais aussi des hommes me le disent, que c'est pas toujours évident, qu'il y a plein de difficultés, des baisses de désir, des difficultés de plaisir, de plein de choses, et qu'on ne sait pas toujours à qui en parler, parce que on peut avoir une approche alors très médicale entre guillemets sur le sujet, et quand on ose en parler à son médecin, et c'est pas toujours facile. De l'autre côté, sur l'autre versant, on va avoir la pornographie et toute la littérature ou la filmographie qui va avec. Et je ne crois pas que ce soit très nourrissant. En tout cas, ça c'est ma vision des choses. Et entre les deux, il y a tout un espace qu'on n'investit pas assez. Et la sexualité, c'est quoi? C'est avant tout d'être présent à son corps, pour pouvoir être présent à ses sensations, pour pouvoir être présent à l'autre. Et que pour créer dans cet espace à deux, une dimension qui soit oui, spirituelle et sacrée, ou en tout cas, et qui soit surtout nourrissante et épanouissante. Et voilà, et je trouvais que la sophrologie, avec tous ces outils de respiration, de visualisation, c'est un formidable outil pour apprendre à être présent à son corps, à ses sensations, et puis pour pouvoir les partager dans cet espace intime, et que quand on est dans cet espace-là, présent, à l'encontre totalement de toute idée de performance et de résultats, justement, du coup, on trouve une certaine forme d'épanouissement. Et voilà, et je voulais être dans cet espace-là où il me semble on entend encore assez peu de voix.
Ouais.
Et oui, et je crois vraiment, je pense que si les gens, en tout cas, dans leur vie sexuelle, trouvent plus d'épanouissement, ils trouveront aussi beaucoup plus d'amour. Et puis j'ai cet espoir, peut-être très utopique, mais que quand les gens feront mieux l'amour, ils feront moins la guerre.
Eh bien oui, c'est une belle phrase de conclusion, ceci étant dit. Alors Judith, où est-ce qu'on peut te retrouver déjà, je crois, toute ton actualité d'accompagnante sur www.happy-confidence.com. Donc l'adresse est notée avec le podcast de cette émission. Justement, quelle est ton actualité? Est-ce que tu privilégies aujourd'hui l'accompagnement individuel ou est-ce que tu développes un petit peu ta pratique?
Alors, je fais de l'accompagnement individuel sur Paris. Je reçois et j'aime bien recevoir en présentiel. Ça, c'est quelque chose pour l'instant auquel je tiens. Donc, du coup, je fais de l'accompagnement individuel. J'interviens aussi en entreprise et je fais le pont avec mon ancienne activité. Donc, j'interviens aussi en entreprise. J'anime des groupes de sophro en entreprise. Et puis, je vais proposer, en tout cas, voilà, j'ai quelques projets. J'aimerais travailler avec d'autres thérapeute ou même artiste et proposer des ateliers plus ponctuels sous des formats un peu plus longs que des séances, mais sous la forme d'ateliers. Voilà, donc l'actualité sera notée. J'ai une page Facebook aussi, Happy Confidence, et l'actualité est aussi répertoriée. Voilà.
Eh bien, super. Vraiment, tu as l'art de parler de toi. C'est pas donné à tout le monde, je sais de quoi je parle, parce que c'est loin d'évident de parler de soi, et je trouve que tu le fais très bien, et tu verras que c'est tout à fait intéressant de s'entendre aussi en retour, vraiment, parce que c'est un très bel écho et c'est aussi très, très guérissant. Donc voilà, écoute, est-ce que tu
Merci.
As peut-être un dernier mot de la fin, Judith?
Oui, j'aurais juste voulu peut-être dire que ce qui est important, c'est d'être juste pour soi, de s'offrir cette bienveillance à soi-même, vraiment. Je crois que c'est mon leitmotiv et je crois que je le partage tant que je peux, c'est que la première des bienveillances, elle s'applique à soi-même. Là où on est, où on en est, et de s'offrir cette bienveillance-là pour soi-même. Donc, pour moi, le mot de la fin, c'est offrez-vous cette bienveillance.
Et oui. Voilà, chers auditeurs, pour cette belle rencontre avec Judith Benita. Merci vraiment pour cette vraie générosité de partage qui est tout à fait vraiment dans la qualité que je souhaite offrir aux auditeurs et au travers de Caractère Libre. On est vraiment en plein dedans. Donc, merci de me faire goûter à ça. C'est toujours une vraie joie.
Merci beaucoup à toi, Thomas, de m'offrir cet espace. Merci à toi.
Voilà, chers auditeurs, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Caractère Libre et puis je vous remercie de votre belle fidélité à la radio. À très bientôt. Au revoir, Judith.